Trois compagnons. Ils discutèrent avec animation pendant plus d'une heure, tant ils avaient de choses à se dire. Quand Nicole parla de sa frayeur, lorsqu'elle avait découvert le corps de Takagishi dans le nid de l'octopode, O'Toole resta muet un instant, puis secoua la tête et leva les yeux vers le ciel.
« Il reste encore trop de questions sans réponse, » marmonna-t-il. « Est-il possible que vous soyez malgré tout des êtres malveillants ?»
Richard et Nicole furent horrifiés d'apprendre que le CDG avait décidé de détruire Rama, et ils félicitèrent O'Toole lorsqu'ils apprirent qu'il avait eu le courage de refuser d'amorcer les bombes.
« Utiliser des armes nucléaires contre ce vaisseau serait impardonnable, »
commenta-t-elle.
« Je suis fermement convaincu qu'il ne constitue pas une menace. Si Rama s'est placé sur une trajectoire qui intersecte celle de la Terre, c'est sans doute pour nous transmettre un message. »
Richard lui reprocha, avec gentillesse, de fonder ses déclarations plus sur des émotions que sur des faits.
« Je ne le nie pas, » reconnut-elle. « Mais il existe désormais un argument logique pour refuser d'exécuter un tel ordre. Nous avons la preuve irréfutable que Rama 2 reste en contact avec le premier et tout laisse supposer qu'un Rama 3, pour l'instant très éloigné, se dirige vers nous. Si les Raméens sont effectivement animés de mauvaises intentions, la Terre ne pourra en aucune façon leur échapper. Nous détruirons peut-être ce deuxième appareil, mais le suivant en sera informé et il sera vain d'espérer survivre aux attaques d'une espèce dont la technologie surpasse à tel point la nôtre. »
Le général O'Toole la dévisagea, admiratif.
« C'est un raisonnement sans faille, » dit-il. « Je regrette que vous n'ayez pu vous libérer pour participer aux téléconférences avec les responsables de l'ASI. Je n'ai à aucun moment considéré. »
« Pourquoi ne pas attendre d'être de retour dans Newton pour poursuivre cette conversation ?»
demanda soudain Richard. « Il fera nuit dans une demi-heure, avant qu'un seul d'entre nous n'ait atteint le sommet, et je ne tiens pas à me balancer dans les ténèbres plus longtemps que nécessaire. »
Ils quittaient définitivement Rama, et ils mirent à profit les dernières minutes de clarté pour admirer le panorama majestueux. Nicole était ivre de bonheur. Peut-être par superstition, elle ne s'était pas permis de croire qu'elle pourrait à nouveau serrer Geneviève dans ses bras avant cet instant. À présent qu'elle s'élevait dans la nacelle du télésiège, elle s'autorisait à penser à la beauté bucolique de Beauvois et à s'imaginer la scène de ses retrouvailles avec son père et sa fille.
« Dans une semaine, une dizaine de jours tout au plus, »
se dit-elle. À son arrivée au sommet, elle faillit extérioriser sa joie par un hurlement. Michael O'Toole venait une fois de plus de changer d'avis. Quand les ténèbres engloutirent Rama, il savait comment informer la Terre de sa conclusion. Il contacterait immédiatement la direction de l'ASI. Ses compagnons résumeraient leur mésaventure et Nicole expliquerait pourquoi la destruction de Rama eût été impardonnable. Il ne faisait aucun doute que l'ordre d'amorcer les bombes serait aussitôt annulé. Il utilisa sa torche juste avant d'atteindre l'extrémité supérieure du télésiège. Il en descendit en apesanteur et attendit aux côtés de Nicole que Wakefield les eut rejoints. Ils s'engagèrent ensuite sur la rampe conduisant au tunnel de la navette qui s'ouvrait seulement 100 mètres plus loin. Ils étaient montés dans le wagonnet et s'apprêtaient à traverser la coque de Rama en direction de Newton quand le faisceau de la lampe de Richard se refléta sur une masse de métal installée d'un côté du passage.
« Est-ce une de ces bombes ?»
s'enquit-il. Janos avait eu d'excellentes raisons de les appeler des obus. Nicole frissonna.
« Comme c'est étrange !»
se dit-elle.
Les techniciens auraient pu donner à ces machins n'importe quelle autre forme. Je me demande quelle aberration du subconscient les a incités à opter pour celle-ci.
Et quel est ce truc bizarre qu'on peut voir au sommet ?
C'était Richard
qui s'adressait à O'Toole. Le général fronça les sourcils pour regarder ce que révélait le faisceau lumineux.
« Je ne sais pas, »
avoua-t-il.
« C'est la première fois que je vois une chose pareille. »
Il redescendit de la navette. Richard et Nicole le suivirent. Il approcha de la bombe et examina l'étrange système qui avait été installé sur le pavé numérique. Il s'agissait d'une plaque peu épaisse, guère plus large que le clavier lui-même, et fixée sur les côtés par des pattes articulées. Il voyait sous ce plateau 10 petits vérins télescopiques. Quelques secondes plus tard, une de ces tiges s'allongea pour enfoncer la touche 5, située juste au-dessous. Le 5 fut suivi rapidement par un 7, puis par 8 autres chiffres, et le voyant vert se mit à clignoter pour signaler que la première série était correcte. Le processus recommença peu après, et le vert se ralluma. O'Toole se figea, terrifié.
« Mon Dieu, c'est mon code. Ils ont réussi à le décrypter. »
Sa panique s'atténua quand, après la troisième dizaine, le voyant rouge signala une erreur.
« Ils ont dû improviser ce mécanisme pour chercher le code pendant mon absence, » déclara peu après O'Toole. « Mais ils n'ont trouvé que les deux premières séries. J'ai craint un instant. »
Il s'interrompit, conscient d'être rongé par la colère.
« Ils ont sans doute supposé que vous ne reviendriez pas, » suggéra Nicole.
« Si Hellman et Yamanaka ont fabriqué ce machin, »
rétorqua O'Toole.
« Il est encore possible qu'il ait été installé par des extraterrestres ou des biotes. »
« C'est improbable, » déclara Richard. « Sa conception est trop rudimentaire. »
O'Toole fit glisser son sac à dos pour y prendre des outils dont il se servit pour démonter l'appareil.
« Dans un cas comme dans l'autre, nous ne devons courir aucun risque. »
Ils découvrirent la deuxième bombe à l'autre extrémité du tunnel, équipée du même système. Ils le regardèrent effectuer un essai, avec le même résultat. Une erreur dans la troisième série. Puis le démontèrent, ouvrirent le sas et quittèrent Rama. Personne n'était là pour les accueillir à leur entrée dans l'appareil militaire. Le général O'Toole supposa qu'Hellman et Yamanaka dormaient et se dirigea vers leur quartier afin d'avoir un entretien avec l'amiral. Mais les deux hommes n'étaient pas dans leur cabine. Ils obtinrent peu après la confirmation qu'ils ne se trouvaient pas dans cette section ni à leur poste de travail. La visite de la soute fut tout aussi inutile, mais ils purent constater qu'une des deux capsules servant aux sorties extravéhiculaires avait disparu, ce qui souleva d'autres interrogations. Où Hellman et Yamanaka avaient-ils pu aller à bord de cet appareil? Et pourquoi avaient-ils transgressé la règle, voulant qu'au moins un membre de l'équipage fût constamment de permanence à bord? Telles étaient les questions qu'ils se posaient alors qu'ils regagnaient le centre de commandement pour discuter de la situation. Ce fut O'Toole qui mentionna le premier la possibilité d'une attaque.
« Croyez-vous que des octopodes ou même des biotes auraient pu monter à bord ?»« Il n'est guère difficile d'entrer quand Newton n'est pas en mode d'autoprotection. »
Nul ne souhaitait exprimer le fond de sa pensée. Si quelqu'un ou quelque chose avait capturé ou tué leur collègue, cet agresseur risquait d'être encore dans les parages et ils étaient peut-être eux aussi en danger.
Pourquoi ne pas appeler la Terre pour annoncer que nous sommes toujours en vie ?
Proposa Richard afin de briser le silence. Le général O'Toole sourit.
C'est une excellente idée.
Il alla vers la console et pressa des touches. L'écran principal s'alluma et le statut actuel de l'appareil s'y afficha.
« C'est bizarre !»
commenta le militaire.
« La liaison vidéo a été coupée et il n'y a plus qu'un échange télémétrique à débit réduit. Pourquoi ont-ils modifié la configuration du système de télécommunication ?»
Il entra des instructions pour rétablir les autres canaux et un essaim de messages d'erreur défila sur l'écran.
« Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?»
s'exclama Richard.
On dirait que toute la vidéo est HS.
Il se tourna vers O'Toole.
Vous êtes le spécialiste, général. Qu'en déduisez-vous ?
N'aime pas ça,
déclara sombrement O'Toole.
Je n'ai vu une chose pareille qu'une seule fois, au cours d'une des premières simulations, le jour où un imbécile avait oublié de charger le logiciel. Nous avons un problème informatique sérieux. La probabilité pour qu'autant de pannes se produisent simultanément est pratiquement nulle.
Richard suggéra de soumettre le programme de vidéocommunication à son autodiagnostic. Les tampons de stockage des données non conformes furent saturés dès le début du test.
Voilà bien le responsable de nos ennuis,
déclara Richard en analysant les informations.
Il va me falloir du temps pour remettre un peu d'ordre dans ce merdier.
Il saisit des instructions.
Une minute,
intervint Nicole.
Ne serait-il pas utile d'essayer de comprendre ce qui se passe avant d'entreprendre quoi que ce soit ?
Ses compagnons interrompirent leurs activités pour attendre la suite.
Heilman, Yamanaka et une capsule ont disparu,
ajouta-t-elle en faisant lentement le tour de la salle.
Et quelqu'un a essayé de décrypter le code d'amorçage des bombes nucléaires du tunnel. Il se trouve également qu'après avoir fonctionné correctement pendant des centaines de jours, en tenant compte des simulations effectuées avant l'appareillage, le logiciel de vidéocommunication perd brusquement les pédales. L'un de vous aurait-il une explication cohérente à me proposer ?
Il y eut un long silence.
Le général O'Toole a avancé l'hypothèse d'une attaque.
Cette suggestion est toujours valable,
déclara Richard.
Des Raméens ont pu saboter le programme après que nos collègues ont dû fuir pour sauver leur peau.
Nicole était sceptique.
Rien de ce que j'ai vu ici ne laisse supposer que des extraterrestres ou tout simplement des biotes sont montés à bord. Faute de preuves,
Heilman et Yamanaka ont pu essayer de déchiffrer le code du général,
avança Wakefield.
Ensuite, ils ont pris peur et...
Attendez ! Attendez !
Cria Nicole.
Il y a du nouveau sur le moniteur !
Les deux hommes se tournèrent à temps pour voir le visage de l'amiral se matérialiser sur l'écran.
« Je vous salue, général O'Toole, » dit-il en souriant. « La diffusion de ce message a été déclenchée par votre passage dans le sas de Newton. Le cosmonaute Yamanaka et moi-même l'avons enregistré avant de quitter le bord dans une des capsules 3 heures avant I-9. L'ordre d'évacuation nous est parvenu moins de 60 minutes après que vous êtes allé vous promener dans Rama. Nous avons attendu votre retour le plus longtemps possible, mais nous devons suivre nos instructions. Les vôtres sont simples et sans ambiguïté. Vous devez fournir votre code aux 2 charges du tunnel et aux 3 qui restent dans la soute. Vous disposerez ensuite de 8 heures pour quitter le bord dans la dernière capsule. Ne faites pas attention aux décrypteurs qui sont à l'ouvrage sur les bombes installées dans la coque de Rama. Le QG nous a ordonné de tester de nouvelles techniques de décodage top secret. Vous pourrez constater qu'il est facile de les démonter à l'aide de simples pinces et de cisailles. Le programme chargé dans le système de navigation de la capsule restante vous conduira à un rendez-vous avec un remorqueur de l'ASI. Votre seul travail consistera à indiquer l'instant exact de votre départ. Je dois cependant préciser que les algorithmes ne sont prévus que pour un appareillage effectué avant I-6. Passé ce délai, les paramètres perdront de leur précision et il sera pratiquement impossible de vous récupérer.
Heilman fit une courte pause puis ajouta, sur un ton pressant,
Ne perdez plus une seconde, Michael. Armez les bombes et embarquez immédiatement dans la capsule. Nous y avons déjà chargé la nourriture et tout ce qui vous sera utile. Bonne chance et à bientôt sur Terre.